Nous sommes mercredi 23 septembre 2020, vous n'êtes pas encore reconfiné, vous écoutez le Dojo Bar.
Ah ah.
Guten Abend für alles, es ist die Dojo Bar. Wir haben ein sehr interessantes Programm heute Abend. Et ce sera tout pour l'allemand pour ce soir. C'était une spéciale dédicace à Méduse.
On a déjà perdu deux gens là.
La Belgique s'est de nouveau fait envahir.
Oui, on a plus d'auditeurs, c'est ça.
Bar, y'a bar.
La Belgique qui s'est plus défendue que la France, hein, je tiens à le signaler. Il y avait des Non, c'est un vrai truc, il y avait des milices civiles contre les nazis, ça c'est un vrai.
C'est vrai, ils avaient plus de possession de ballon.
Et comme quoi Charles de Gaulle avait raison. Toute la France a été résistante, en particulier la Belgique.
Il a fallu moins de 40 secondes donc, pour que ça parte.
Ça, c'est
à peu près la ratio habituelle.
Bah, c'est la rentrée, quoi.
Voilà. Bref, pour l'émission de ce soir, d'abord, bonsoir tout le monde, parce que je l'ai fait en allemand, on va peut-être le faire en français. Bonsoir Antix.
Bonsoir.
Depuis son nouvel appartement, donc.
Yes.
Bonsoir Galaxies.
Bonsoir.
Reporter de l'extrême à l'étranger, votre correspondant sur place.
Exactement.
Au pays de Boris.
Nous terrons le pays dans lequel il est, mais ce pays, sachez-le, est rouge-rouge, mais pas trop.
Et ils savent pas faire la cuisine.
Au rouge écarlate.
Mecton.
Bonsoir.
N'est pas dans son nouvel appart, mais qui a une nouvelle connexion.
Eh ben non, pas encore, j'ai eu une alerte pelleteuse.
C'est la pelleteuse.
José, il est venu avec le tracto, il a tout pété, du coup c'est tout
à
refaire.
Ah non, arrêtez avec José. Déjà c'est raciste. Tous les mecs qui manipulent une pelleteuse ne s'appellent pas José.
Ouais, tu veux quoi, il s'appelle Mario?
Je sais pas, mon peintre était portugais, mon maçon était portugais, je commence quand même à avoir un petit problème. Moi je pense que c'est le grand remplacement. Bref, et bonsoir Zergy.
Salut.
Qui lui est toujours dans son appart à lui.
Ça va peut-être changer.
Oh, et que je suis pas encore allé voir d'ailleurs, faut que je vienne te voir. J'ai eu quelques petites contraintes de voiture, je vais m'excuser. Bref, donc...
Attends.
Ah, bah c'est quand même, ça fait plaisir. Pour une reprise, ça fait plaisir.
Donc, les traditions.
Au programme de ce soir, on va rattraper un petit peu d'actu chaude de l'été. Alors, pas tout. Il y a des trucs qui ne seront pas rattrapés. On précisera ce qui ne sera pas rattrapé. On va parler un petit peu de Super Mario 3D All-Stars, mais très rapidement, parce que finalement, on s'est rendu compte, on va parler d'une mission qu'on n'aurait pas grand-chose à en dire. Et on va finir avec le plus gros merceau, le déficit français. Tout à fait. C'est pas possible, vous êtes ingérable. Et donc on va finir avec Paper Mario and the Origami King, qui est donc le dernier Paper Mario qui est sorti cet été. Si vous pensez qu'on élude des jeux très importants qui sont sortis cet été, bien non. Très clair.
Là, il y a Nintendo qui a rien sorti.
Non mais voilà, ils ont rien sorti. On sait Famélique et tout le monde attend. Alors on a eu des partenaires directs, c'est quand même bien. Mais bon, on n'a pas eu grand chose comme jeu.
On va apprendre qu'on aurait des super jeux de catch.
Oui, pourquoi pas. Je dis pourquoi pas.
Pas.
Bref, on va commencer par une nouvelle qui intéresse personne. Le dojo a déménagé, en même temps que moi, ce qui était assez logique. Il est maintenant dans un superbe rack, juste à côté de moi, qui est derrière ce mur que vous voyez là.
Alors on voit très bien, effectivement, c'est magnifique. Voilà, J'aime beaucoup cette couleur bleu-orange.
C'est très impressionnant, Mortal.
C'est très radiophonique aussi.
Mon Dieu. Et notre correspondant sur place, Galaxy, depuis le placard dans lequel est le rack.
Oui.
J'ai cru que tu allais parler de son appartement.
Alors, pour info, Mortal a laissé ses enfants dans l'ancien appart. Hein.
Non, même pas, ils sont juste au-dessus. Et d'ailleurs, du coup, je suis obligé de parler pas trop fort, histoire de pas trop les déranger.
Au-dessus dans les combles.
D'ailleurs, il a aussi pas pris le chat, ni le hamster, vu qu'on les entend pas.
Alors, le chat, tu vas peut-être l'entendre, parce qu'il est en train de jouer avec le tuyau. Mais c'est le nouveau chat.
Ils sont en train de jouer avec le hamster.
Il y en a en plus. Il se multiplie.
Le hamster est plus très en forme, donc j'ai bon espoir que voilà. Enfin voilà, je pense que ça va finir par arriver. Bref, ensuite, alors un truc qui a peu de chances d'aboutir, mais qui fait quand même plaisir à voir, l'UFC Que Choisir porte plainte contre Nintendo pour alors obsolescence programmée, c'est pas top.
Pas le meilleur move.
Pas le meilleur move, mais ils portent plainte en gros pour dire le Joy-Con Drift, c'est quand même un petit peu lamentable. Surtout que, alors ce qui est très lamentable...
Matos de merde, ça aurait été beaucoup plus réaliste.
Meilleure feature de la Switch.
Mais en fait, ce qui est triste, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu une menace de class action, donc Nintendo remplace gratuitement les sticks des Joy-Con de manière illimitée, sans demander de garantie, sans rien. Par simplement le système de SAV en France, enfin en Europe de manière générale, c'était pas le cas.
Alors, à part pour les gens sur Nintendo Man qui ont testé, et apparemment, même sans la preuve d'achat, ils te le font gratuitement, mais ils sont tellement pas communiqués là-dessus, et je crois que c'est tellement genre caché quelque part sur le site du SAV que. Bon, en fait, tu le sais pas, c'est comme s'il y avait pas.
Ouais, du coup, c'est un peu con parce que Nintendo aurait pu éviter de se faire pincer par. Alors, pincer par l'UFC que choisir, c'est pas grand chose. Je pense que si t'étais pincé par l'équivalent allemand qui s'appelle je sais plus comment, qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant, c'était un peu plus dans la merde. Mais de toute façon, tant qu'il n'y a pas de class action, entre guillemets, à l'échelle européenne, je pense que ça bougera pas tellement.
Ce qui est dommage, parce que jusqu'à présent, en plus, déjà, les consoles Nintendo avaient quand même une réputation de console plutôt solide jusqu'à il y a quelques générations. Notamment, je dirais la 3DS, qui est peut-être la première fois où j'ai vraiment eu l'impression que ça allait me péter entre les mains. Mais de manière générale, le SAV aussi, avait aussi plutôt bonne réputation il y a encore quelques années, voire il y a une ou deux décennies, mais là, c'est un peu de la merde, comme il dirait Georges Abitbol.
L'UFC va choisir une sponsor division, mec, t'es sérieux?
Bah ouais.
Bon, okay. Alors, en France, techniquement, depuis le 10 janvier dernier, les Joy-Con sont réparés gratuitement, mais le problème, c'est que la phrase qui l'indique est très vague, donc c'est pas clair.
Vas-y, si t'as la phrase exacte.
C'est « Si la période de garantie du fabricant est écoulée ou si le problème n'est pas couvert par les garanties du fabricant, Nintendo, à sa seule discrétion, pourra néanmoins être disposé à réparer ou remplacer la pièce en panne ou à remplacer le produit. »
Oui, enfin si c'est clair quand t'as fait 15 ans de juridique.
Oui.
En fait, ils disent...
Sauf que bon, manifestement, c'est ce que tu veux dire, c'est pas... Ouais.
Oui, c'est, bah, c'est à la discrétion. Ça. Oui, non, mais à la discrétion, ça veut dire que si ton chien a mangé ton Joy-Con, effectivement, ils vont peut-être pas le réparer. C'est comme ça qu'il faut le comprendre.
Ça reste une usure normale, quoi.
C'est ça, c'est faut que ça, enfin une usure normale.
Oui.
Premier guillemet, 21h09, premier guillemet. Oui, voilà. Bon, bref, donc c'est compréhensible. Autre gros truc de cet été, il y a eu le gros leak.
Alors, le gros leak, c'est une vieille société. Ils ont des fuites.
T'es un bâtard. Donc il y a eu, ça a démarré un petit peu avant qu'on arrête cette histoire, mais il y a eu plein de choses qui ont été découvertes cet été.
Sachant que c'est la suite de leaks qu'il y avait déjà eu avant.
C'est ça.
J'ai bien compris.
Et notamment alors alors pas forcément des morceaux de code source. Il y en a eu. Enfin il y a eu des rumeurs comme quoi il y en avait eu, mais en fait c'est pas tellement ça. Il y a eu surtout des assets bêta et des choses comme ça.
Mmh. Ouais, enfin, notamment même des. Il y avait même des emails. Qui avait été envoyé dans la boîte qui témoignait aussi de conditions de travail qui étaient vraiment pas top à l'époque. On parle de 90-2000. Hein. Et je crois que même il y a un logiciel qui avait été créé spécialement pour Star Fox sur ce Super Nintendo.
C++.
Qui a été dévoilé. Et, d'ailleurs, le développeur de l'époque, dont j'ai oublié le nom,
c'est Dylan Cuthbert.
S'en était ému dans un tweet, et pas dans le sens, ça lui faisait plaisir de le voir, c'est que ça le dérangeait un peu que ce genre de truc justement sorte un peu nulle part.
Alors qu'il le pensait perdu.
Voilà, mais d'ailleurs pour les mails échangés entre les employés, enfin au sein de Nintendo, c'est même peut-être même encore plus problématique en termes de vie privée, mais
ça.
Moi, je te laisse, vas-y.
De manière générale, il y a quelque chose un peu, enfin qu'on tombe sur des prototypes ou des assets non utilisés ou des choses comme ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, dans le sens où ça permet de se rendre compte du processus créatif et tout ça, donc c'est pas des choses que Nintendo aurait souhaité étaler sur place publique, mais c'est peut-être des choses qu'on aurait pu retrouver volontairement chez eux si un jour il y avait eu un livre 50 nuances de Mario. Là, ce qui pose un plus gros problème finalement, c'est que effectivement là-dedans, il y a aussi des données qui ont pas grand chose à foutre sur la place publique, effectivement, les emails, des programmes qui étaient plus du test vraiment interne ou des choses comme ça, je trouve ça un peu plus gênant dans ce cadre-là.
Des montages à la con et tout. Ah non, pardon, c'est Quantique ça.
Ah pardon, excusez-moi, non, c'est où là? Non, tu te dis de leak.
On parle aussi de leak pour une dizaine de jeux d'anciens jeux Nintendo, de source code complet, et mine de rien, ça pose la question de la propriété intellectuelle contre la conservation, bien sûr, mais en règle générale, le fait que ça soit rendu public.
Tout à fait. Bah après, le fait que ce soit, enfin, le fait que le code soit rendu public ne l'empêche pas du tout d'être protégé par le copyright, hein. Finalement, le fait que ton code soit étalé sur place publique, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être protégé. Simplement, ça a permis à certains de vérifier qu'effectivement, l'IA de Mario Kart 64 trichait.
On a eu aussi des gars qui ont carrément recompilé Mario 64 pour qu'il tourne sur PC.
Ça, c'est le projet de décompilation de Super Mario 64.
Ah, ok, ça n'a aucun rapport avec le leak.
Ça n'a aucun rapport avec le leak.
Comme pour moi. Et ça les aurait peut-être aidés.
Ça les aurait probablement aidés. Mais je crois que le Super Mario 64, il n'y a pas eu de code source de fuité. Mais là, maintenant, du coup, il y a des portages sur PSP, sur PS Vita. Enfin, ça devient n'importe quoi.
Ouais, d'ailleurs, Mario 64, on a découvert qu'il y avait un Luigi dedans aussi, dans les assets non utilisés.
Tout à fait. Qui ont été retirés du jeu. C'est-à-dire que c'est pas en décompilant la ROM, c'est vraiment en allant chercher dans les assets non utilisés qui étaient dans ce bordel-là. Mais je crois qu'il y a peu de choses qui ont fuité. Il y a un morceau du code source de Star Fox, l'original, qui a fuité.
Tout
le logiciel.
C'est tout. Hein.
C'est l'intégralité.
Il y a marqué source code de Star Fox, Star Fox 2, Link's Awakening Deluxe, Wild Tracks, Yoshi's Island, Mario Kart, F-Zero, A Link to the Past, Super Mario All-Star et l'émulateur GameCube sur la Wii.
Ça c'est pas mal. Il y a quand même une petite information qui pourrait vous intéresser. Hein. Basiquement, le code source de Link's Awakening était déjà disponible, hein, c'est la ROM. Le jeu il est programmé en assembleur, donc de toute façon, si t'as la ROM, t'as le code.
Ils l'ont fait en assembleur.
La plupart des jeux de cette époque-là étaient faits en assembleur.
C'est vraiment des niqués.
Ah non, mais tout le monde faisait comme ça.
Jusqu'à l'époque 16 bits, ouais, c'était commun.
Très commun.
Incroyable. Bah,
tu peux faire tourner du code source sur une Mega Drive, du code C, pardon, sur une Mega Drive. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus lent que de faire de l'assembleur. Donc en fait, la plupart des développeurs finissaient par faire de l'assembleur, ou au moins des morceaux d'assembleur. Pardon.
Incroyable.
Pas si incroyable que ça.
D'ailleurs, je vous conseille de... Alors, soit vous écoutez le podcast, soit vous allez directement sur le site. VG Densetsu, qui a fait tout un article sur justement cette histoire de Giga Leak, et notamment qui parle de l'origine de la fuite. Alors, j'ai notamment le nom de Zamis Clark, qui serait la personne qui aurait récupéré toutes les données, et qui les aurait fait fuiter petit à petit. Et il en parle aussi dans un podcast qui s'appelle le Player Club. Qui a été relancé cet été, c'est un ancien podcast Radio Kawa qui a passé sur Blueprint, qui est une société faite par les mecs qui ont fait Radio Kawa, et qui a été relancé cet été avec un premier épisode là-dessus où justement le mec de VG Densetsu vient parler de tout ça. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire l'article, soit d'écouter le podcast.
Il y a des gens, ils vont se faire zigouiller par les Yakuza.
Ça va pas traîner. On a une autre petite nouvelle dont on ne sait pas trop quoi penser pour l'instant parce que c'est tout frais. Microsoft.
Ça date de début de semaine, non ?
Rachète Fallout 76.
Les cons, ils ont racheté Fallout, oui.
Alors, tu confonds avec Bethesda. Je sais que c'est la même logique. Alors, ils ont pas racheté Bethesda, ils ont racheté Zenimax, pour être plus précis.
Enfin, Zenimax, Media, ouais.
Oui, enfin, Zenimax était propriété intégrale de. Enfin, Bethesda était propriété de Zenimax, donc ça
oui, voilà.
Mais
c'est ouais.
En même temps, ils ont aussi Doom, ils ont aussi des petits trucs quand même un peu sympas.
Ah, ils récupèrent ID Software qui appartient à Zenimax ou à Bethesda, alors je sais plus lequel, mais.
C'est exactement ça, c'est que la différence entre racheter Bethesda et racheter Zenimax, c'est déjà. Qu'ils ont Bethesda et ID Software et deux autres. Il y a deux autres sociétés. Il me semble que c'est Bethesda Biz. Enfin, il y a des trucs. Enfin, c'est bref.
Et puis d'autres sociétés. T'as aussi Arkane qui a
aussi
fait
les licences.
Voilà.
C'est-à-dire que ils sont aussi propriétaires des licences.
Et aussi tous les comptes offshore au Caïman. Non, mais c'est important.
Et les bugs. Alors, et l'équipe assurance qualité. Ah bah non, il n'y en a pas.
Ouais, ça devait pas être cher.
Enfin, en tout cas, pas chez Bethesda même. Mais par exemple, ils récupèrent aussi Arkane, qui est le studio à l'origine de Dishonored.
Le studio lyonnais de mémoire.
Ouais.
Lyonnais, oui.
Il y en a plusieurs d'ailleurs.
Donc c'est.
Il y a Lyonnais, il y a Lionel.
C'est pas un petit rachat parce que Bethesda, quand même, depuis 10 ans, c'est une grosse société. Ben, grâce à Skyrim, donc je pense qu'on aura une version Xbox One Series X. Je sais plus comment ça se dit, leur console de merde. De Skyrim, à tous les coups.
Non, mais Skyrim est surtout, donc oui, ça y est.
Voilà. Et il y aura
peut-être même un GTA 5.
Il y aura une nouvelle version de Doom aussi.
Mais alors, la question, c'est y aura-t-il une version de Skyrim pour Cortana?
Je une très bonne question.
Mais non, parce que Cortana, il abandonne.
Ah putain.
C'est non, un nouvel truc de Windows 10. Bon, en tout cas, mais dans tous les cas, c'est un gros coup. Pardon. Bah,
Oui, non, c'est ce que j'allais dire. C'est un rachat assez majeur. Et ça fait un peu penser à la stratégie de Disney. Quand ils ont racheté Marvel et la licence Star Wars. C'est un gros mastodonte qui rachète des trucs
de taille conséquente,
mais qui sont quand même de bonne taille. Bethesda, c'est pas Ubisoft, c'est pas EA en termes de taille, mais ça reste quand même un éditeur qui compte. Maintenant, ils ont leur conférence à l'E3. Enfin, avaient leur conférence à l'E3.
Mais la question, c'est est-ce que ça va rester, est-ce que c'est l'acheter pour en faire un éditeur first party qui va rester éditeur first party et qui ne sortira des jeux que sur PC et Xbox, ou est-ce que finalement ils vont les laisser faire ce qu'ils veulent parce qu'ils s'en foutent, quoi.
Bah, c'est une bonne question. Je pense quand même que les gros titres finiront en exclus.
A priori, il n'y aura pas d'exclusivité pour les Xbox. En tout cas, pas systématique.
Ouais,
The Elder Scrolls 6, a priori, bon. M'étonnerait qu'ils le laissent sur PS5.
Elder Scrolls, voilà, moi, pour moi, ce serait l'exemple du jeu qui vont sortir en exclus sur Xbox One pour faire venir des gens dessus. Enfin, Xbox Series X, pardon. Vraiment des noms de merde. Hein. Le Game Pass surtout. Pour faire venir des gens dessus.
Peut-être des exclus temporaires pour les autres jeux, mais.
Ouais, en fait, moi je serais pas surpris qu'ils aient. Genre les jeux Bethesda soient disponibles plus tôt sur le Game Pass ou sur les consoles Xbox, et puis genre 6 mois plus tard tu les as sur PS5, tu vois.
Game Pass c'est Day One pour tous les jeux, et c'est le plus gros coup en fait de Microsoft, puisqu'ils misent tout depuis quelques années sur le Game Pass. Enfin, on a vu l'offre se développer alors que la Xbox One et ses dérivés battaient grave de l'aile en termes de vente matérielle. On a vu le Game Pass se développer, s'étoffer, et notamment sur PC. Il est arrivé sur PC il y a, je crois, même pas un an. Enfin, il était en bêta avant, mais il est arrivé officiellement sur PC il y a même pas un an. Et c'est une énorme offre et qui a une croissance, mais monstre. Je crois qu'ils étaient, il y a un an, ils étaient à 10 millions d'utilisateurs. Maintenant, c'est 15 millions. Et avec le rachat de Bethesda et l'annonce que tous les jeux Bethesda sortiront Day One sur le Game Pass, ça va faire un boost monstre. Surtout que le Game Pass Ultimate, donc l'offre à 13€, contient du cloud gaming. Ça veut dire que tu payes 13€ par mois, t'as accès à tous les jeux Day One et t'es sûr de les faire tourner à fond.
Ouais, je me permets de rappeler que Microsoft a quand même des modèles économiques extrêmement douteux et dans lequel l'objectif c'est effectivement d'attirer un maximum de monde et ensuite de multiplier les prix par 25 à peu près pour arriver à rentabiliser.
Ah oui, je serais pas surpris que le Game Pass il augmente de prix à un moment ou à un autre, hein, mais comme tous les abonnements.
Oui,
hein,
il augmentera de prix à partir du moment où il y aura suffisamment de joueurs captifs. Voilà. Ça a toujours été la stratégie de Microsoft dans tous les cas, donc c'est vraiment dans la culture d'entreprise. Enfin bref, en tout cas, c'est un gros coup, on verra les ramifications que ça a dans les mois et années à venir.
Je pense que ce sera surtout les années à venir parce que je pense que ça va être comme beaucoup de studios qu'ils ont rachetés récemment. C'est-à-dire que les jeux qui étaient en cours de développement et prévus sur d'autres supports sortiront sur d'autres supports.
C'est pour le futur où effectivement voilà. Ça sera peut-être.
Donc en vrai, ce sera plus. Je pense que d'ici 2-3 ans pour les plus petits jeux, ça commencera à se voir. Et puis c'est vraiment à ce moment-là où on commencera, ouais, effectivement, certains jeux série Bethesda, ce sera que sur Xbox, quoi.
Mais ça fait deux exclus temporaires du lancement de la PS5 qui seront estampillés Microsoft, et ça vaut bien 7 milliards.
Ah. Je pense pas, non.
Sachant qu'à chaque démarrage de Minecraft, quel que soit le support, tu as marqué Microsoft dessus. Hein.
Oui. Ça fait partie des trucs qui ont été rachetés par Microsoft, et je pense qu'ils ont eu raison de le faire. En tout cas, Mojang, ils l'ont racheté au moment où c'était finalement pas si gros que ça. Et depuis, ça rapporte. Hein.
Petite précision, donc il y a eu des interviews de certains cadres de Microsoft après ce rachat. Et notamment, alors je crois que ça a paru hier ou aujourd'hui, j'ai plus en tête. J'ai perdu l'article. Mais en gros, le PDG de Microsoft indiquait que ils vont pas s'arrêter à Bethesda, il y aura sûrement d'autres achats de studios, alors peut-être même d'éditeurs par la suite.
La rumeur est assez incroyable. Je sais pas si on a vu passer la même, mais la boîte du hérisson, ce serait assez symbolique.
Ouais, et en vrai, Sega, ce serait pas con parce que.
Et ce serait pas la première fois. Hein. Je rappelle qu'ils avaient cherché à acquérir Sega au début des années 2000, juste avant la sortie de la Xbox.
Ils aussi essayé de racheter Nintendo.
Tout à fait.
Ouais. En pensant qu'ils auraient Donkey Kong.
En fait, ce qui serait bien, c'est de racheter Electronic Arts, Ubisoft, 2K, Rockstar, Nintendo et Sega, et que tout ça devienne Microsoft. Comme ça, on dirait plus un jeu vidéo, on dirait un Microsoft. Ça, ce serait drôlement bien.
Putain de monde de merde.
Voilà. Là, c'est Disney, hein. Ouais,
ça arrivera.
Ça arrivera. Et puis, ils ont la thune hein, pour faire ça, Microsoft. Hein.
Malheureusement, donc, oui, ils ont pour l'instant la thune pour faire
c'est
ça.
C'est un peu le souci.
Autre nouvelle, alors, très rapidement, Michel Ancel arrête le jeu vidéo.
Ah, il laisse Orphelin, Wild et Beyond Good and Evil 2.
Il voilà. Sortira jamais.
Oui, oui, je pense qu'il sortira jamais.
Bon, en vrai, ils se débrouilleront très bien sans lui. Hein.
En tout cas, on souhaite... Michel, si tu nous écoutes, je pense pas. Mais...
Merci pour le poisson.
Merci pour le poisson. Non, mais voilà, Michel Ancel, créateur français un petit peu emblématique en termes de jeux vidéo.
Bah, créateur de Rayman, quand même.
Créateur de Rayman et d'autres trucs, hein, Beyond Good and Evil notamment, mais... voilà,
un monsieur... Et là, pas crétin.
Tout à fait. Un monsieur qui comptait un petit peu dans le paysage, vidéoludique, notamment francophone.
Ouais, et puis il avait une bonne bouille, un bon...
Qui, non seulement quitte Ubisoft, mais quitte complètement le jeu vidéo. Donc c'est quand même... Qui va se consacrer à la vie sauvage, je crois. Donc il va ouvrir un parc animalier ou quelque chose comme ça. De ce que j'ai compris.
Il va soigner les pangolins.
Non, on a dit non.
Non, ça, on arrête de chercher à ça.
J'ai dit soigner, j'ai pas...
Oui, non, mais c'est pas la question. Je veux dire, on arrête avec les pangolins. Les chauves-souris, les pangolins, tout ça, on arrête. Oh. Bref, et enfin, on a eu quand même un Mario... Enfin, un Mario Direct. Oui, un Mario Direct.
Spécial 35e anniversaire.
Où il y a eu... alors,
le Mario Bros. Hein.
Voilà, le jeu dont on parlera juste après la première pause musicale, donc on va pas s'étaler dessus. Il y a eu une autre annonce dont on ne parlera pas, c'est le nouveau Musou Zelda qui avait rien à voir avec Mario qui a été annoncé avant, donc je dis que des conneries, mais c'est pas grave.
Je croyais que t'allais dire qu'il y avait un Musou Mario qui avait été annoncé, j'étais mais on a regardé le truc ou...
T'es mec où tu tabasses des toads par centaines,
c'est pas Paper Mario ça?
Oui c'est ça, mais tu tabasses pas des toads. Tu t'abasses des Goombas.
Il y en a certains pour les déplier, bref, on en reparlera. Tu leur tapes dessus au marteau quand même. Hein.
Mais là où le projet était vraiment ambitieux, c'est que c'était dirigé par Quentin Tarantino. c'est là où Nintendo a surpris finalement. Dans cette
oui, voilà, c'est là où. Bref, donc le nouveau Musou Zelda, nous n'en parlerons pas, nous attendons. Le vrai direct qui aura lieu dans 3 jours sur le sujet.
Qui aura le TGS.
Voilà. Et le pire, c'est. Alors rappelez-vous bien qu'ils ont réussi à nous hyper pour un putain de Musou.
Non.
Si.
Non, ouais, ah si.
Deux fois, je sais quoi m'attendre maintenant.
Mais c'est sympa, ça passe les nerfs.
Non mais un Musou, franchement, ça gratouille un petit peu, ça chatouille un petit peu, tu gratouilles un petit peu, puis après c'est bon quoi.
Non mais c'est ça, t'en fais un tous les 2-3 ans.
C'est parfait.
Très bien. C'est comme FIFA.
Et donc le vrai Mario, donc il y a eu plein de choses qui ont été annoncées, hein, notamment Mario Kart Live, qui est donc un Toys to Live un petit peu particulier, puisque c'est une voiture télécommandée avec une caméra montée dessus, mais qui fait des vrais parcours dans ton salon, à condition qu'il soit suffisamment grand. Je suis désolé pour toi, Galaxies.
Et que tu n'aies pas de chat.
Voilà.
Tu n'aies pas de chat. Dire,
le chat pourrait être un vrai obstacle.
Il y avait double condition, quoi. C'est-à-dire que entre le chat et la superficie, c'était compliqué. Mais, n'empêche que j'ai... extrêmement hâte de voir ce que ça va donner dans la vraie vie.
Ah bah, ça doit être cool.
Et nous en reparlerons certainement dans un mois. Donc
ça me fait un peu penser à un circuit de... Désolé pour de t'avoir coupé, Mortal.
Pas de soucis, pas de soucis.
Ça me fait penser à un circuit en DLC de Mario Kart 8, meilleur Mario Kart, appelons-le.
Ah oui, la chambre.
Celui dans la chambre avec le jouet.
C'est parfait.
Maintenant que j'y repense, je pense que quand tu fais juste bien ton parcours, tu peux avoir un truc assez cool, mine de rien. Parce que
un des pires circuits, rappelons-le.
Non, un des meilleurs.
Non, c'est l'éclat de ce circuit.
Oui, bah c'est bon.
C'est bon, voilà.
Respectez-vous.
Bagarre, respecte-toi, mec.
Bagarre.
Rappelle-toi où t'es.
Nous avons donc un Game & Watch spécial anniversaire de Super Mario Bros.
C'est incroyable, ça va se vendre plus que la PS5 et la Xbox. C'est ouf.
Et puis en plus, comme il y a plus de bénéfices par Game & Watch pour Nintendo, ils vont encore imprimer de l'argent.
Le retour de la old gen.
Donc voilà, moi le seul intérêt du truc c'est vivement qu'il soit hacké le plus vite possible pour qu'on puisse jouer à tous les jeux de la NES et éventuellement de la Super NES dessus, parce que là ce serait parfait. Non, Super NES ça va être compliqué, il n'y a que 2 boutons.
C'est exactement ce qui va se passer.
Donc il va y avoir tous les jeux de la NES dessus.
Ah mais c'est sûr et certain que le truc va être hacké en 3 secondes, vu comment la Switch a largement résisté au hack des gens, vraiment.
Résister encore et toujours à l'envahisseur, hein.
Non mais c'est... Ouais. Bon bref.
Et donc la dernière petite chose qu'on a eu là-dedans, c'est le Super Mario Battle Royale.
Ah, ils font chier avec ça.
Super Mario 35.
GOTY.
Ah c'est... qui est un peu Tetris 99, mais dans Super Mario Bros.
Meilleur jeu. Mais alors, qu'est-ce que c'est le concept, Mortal?
Mais en fait, tu joues à Super Mario Bros. Sauf que à chaque fois que tu ramasses des pièces ou que tu tues des ennemis, bah tu les t'envoies des ennemis aux autres connards avec qui tu joues à Super Mario Bros. Alors je sais pas si c'est une... D'ailleurs j'ai pas compris si c'était une course aux pièces ou si c'était au premier qui finirait le niveau.
Non, c'est pas le dernier, c'est pas le dernier qui survit. Hein.
Dernier qui.
Ouais, dernier survivant. Putain, Battle Royale, vache, ça va être violent.
Oui, bah, TFC 99, c'était déjà Bagdad. Hein. Enfin, genre, je suis désolé, hein, mais TFC 99, c'est l'un des jeux les plus violents auxquels j'ai joué ces dernières années.
C'est un concept tellement génial, mais tellement cruel.
Ah, mais je suis d'accord. Hein. C'est comment dire, c'est les Muraux un samedi soir à 23h au mois d'août. Hein,
en fait, c'est le genre de jeu où tu vois des pseudos en japonais, tu fuis.
C'est à peu près ça. Donc tu sais que tu gagneras pas.
Sauf que contrairement à Tetris 99, Super Mario 35 ne sera disponible, en tout cas dans un premier temps, que pour une durée limitée.
Et là ils font vraiment chier.
Et ouais. Ça fout le seum.
Et ça on pourra aussi reparler du jeu pour le jeu dont on va parler après. Hein.
Voilà, on en reparlera tout de suite après, ben c'est parfait, ça va nous faire une parfaite transition.
Il y a aussi un petit truc sympa qui a été rajouté dans le lot, il y a eu Mario All-Star sur la console virtuelle Super Nintendo.
Oui, c'est vrai, il y a eu ça aussi.
J'ai fait Mario Bros. 3 dessus.
Il y a d'autres jeux d'ailleurs qui ont été rajoutés au passage sur la console virtuelle Super Nintendo qui sont très sympas.
Donc Country 2.
Mario Picross.
Oh, excellent.
Mario Picross, très très bon, sorti que au Japon, moi j'ai la cartouche japonaise, mais... ça vaut le coup. Donc effectivement, il y a une espèce de célébration de Mario, mais ce qui est très curieux, c'est que oui, tout va être en temps très limité, y compris le jeu dont on va parler juste après, vous l'aurez peut-être déjà deviné. Il s'agit de Super Mario 3D All-Stars, qui en fait n'est pas vraiment All-Stars, et pas vraiment 3D, et c'est compliqué.
Et il n'y a pas Knuckles.
Il y a and Knuckles.
Il n'est pas vraiment Mario non plus.
Ça aurait été pire avec Knuckles.
Je ne sais pas. Naruto 3.
Stop. Bref, donc en attendant, on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Paper Mario The Origami King, un morceau qui va vous dire quelque chose très rapidement puisqu'il s'agit de Graffiti Underground. Ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Il barre, oui, oula, il y a de la latence du côté de l'Angleterre.
Je crois qu'on ne sait pas où il était.
Très bien.
Quoi?
Voilà, ça y est, ma poêle est grillée. Oui, voilà, Trosgar, pardon, Trosgar. Galaxies. Ah oui, à le traître. Galaxies, donc, poursuit ses études à Düsseldorf, en Angleterre.
Et, exactement, donc, voilà, parce que je sais totalement où c'est.
C'est pas du tout en Angleterre, Düsseldorf.
Je vois pas pourquoi tu dis ça.
J'adore Berlin.
Bref, il est à Berlin, en Suède.
Dis que la géographie, quoi.
Attends, bref, la bombe qui a pas de bras.
Fais... Non, je te fais
c'est
la
le bac
non,
c'est
après,
ça,
la bombe.
Il y a aussi des bombes dans un des 3 jeux. Hein.
Bref, on va parler très très rapidement de Super Mario 3D All-Stars.
Un jeu avec deux bons jeux et Super Mario Sunshine.
Oh le bâtard. Oh. Ah le gros bâtard.
Fallait que je la place.
Donc c'est une collection de jeux, mais alors à la différence de Super Mario All-Stars, qui était donc... Alors Super Mario All-Stars est sorti sur Super Nintendo en 1991, et était donc une compilation de tous les Super Mario Bros. De la NES, mais refait intégralement pour la Super NES.
C'est 4 Super Mario Bros. De la NES.
Exactement, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. USA et Super Mario Bros. 3.
Ah le bâtard, il a utilisé les noms Jap.
Voilà. Et si donc on reprend un Super Mario Bros., alors ça c'est au Japon, aux États-Unis Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 et Super Mario Bros. 3. Et en Europe, non je déconne, c'est les mêmes qu'aux États-Unis. C'est dommage d'ailleurs, parce que
on n'a pas de personnalité.
Tout à fait. Non, en fait, on, vu du Japon, on se ressemble tous.
Ah, c'était gratuit.
Complètement gratuit.
Très bien.
Ça fait plaisir. Voilà. Et donc là, Super Mario 3D All Stars, l'idée c'était de reprendre tous les Super Mario 3D. Alors, bah, vous
sauf 3.
Vous avez entendu les guillemets. Parce que le problème, c'est que les Super Mario 3D, c'est quand même assez compliqué, parce qu'en fait, il y a Super Mario 64, qui effectivement est la vraie nouvelle formule du Super Mario en 3D, qui est le Super Mario exploratoire, avec des niveaux complètement en 3D, dans lequel il y a finalement un objectif à remplir, pour récupérer une étoile. Donc ça, c'est Super Mario 64, formule qui a été reprise quasiment telle quelle pour Super Mario Sunshine, mais où le hub, qui est le château de la Princess Peach dans Super Mario 64, est là un petit peu plus étoffé dans Super Mario Sunshine, même s'il reprend exactement les mêmes ficelles et les mêmes principes.
Ah, c'est une ville.
C'est une ville entière, oui, au lieu d'être juste le château de la
Princess. Avec ses habitants.
Tout à fait. Et avec ses pièces bleues, je te hais, pièces bleues.
Ah, s'il n'y avait que les pièces bleues comme problème dans le jeu.
Il y a d'autres problèmes. En fait, il y a des trucs très bien dans Super Mario Sunshine, et tu sens en même temps que le développement était quand même très à l'arrache. Et curieusement, très curieusement, ils ont repris Super Mario Galaxy 1, pas le 2.
On le vend en DLC.
Bah, ça fait chier quand même.
Oui.
Oui.
Ça fait chier, surtout qu'il y a de la place sur la cartouche, quoi. Donc c'est pas comme si... Enfin voilà, quoi. Super Mario Galaxy 1, je crois qu'il fait genre 1 giga. Enfin, c'est ridicule, quoi.
C'est pas des jeux qui sont très très lourds, hein. On rappelle que ça tenait... Enfin, Mario Galaxy... Enfin, Mario 64 tenait sur une sorte de 64, donc c'est pas énorme.
8 mégaoctets.
Voilà, Mario Sunshine tenait sur un mini DVD de GameCube, donc c'était 1,5 giga.
Et sachant que lui, il fait, je crois que c'est 550 mégas, un truc comme ça.
Voilà, et Mario Galaxy, bah, c'était un DVD Wii, donc 4 gigaoctets maximum.
Et 1 gigaoctet d'occupé. Donc c'est vraiment pas gros, hein. Je veux dire, la compile au total, avec les textures améliorées, parce qu'il y a quand même eu des petites choses...
C'est essentiellement de l'émulation pour Mario 64 et Sunshine, c'est 100% de l'émulation avec 2-3 trucs retapés, notamment le 16/9 pour Mario Sunshine et le bouton plus à la place du bouton start dans l'écran d'intro de Mario 64, très important.
Et je tiens à préciser quand même, alors il y a des choses aussi, donc effectivement c'est de l'émulation, mais c'est de l'émulation sous stéroïde.
Alors, Galaxy, c'est un peu particulier, parce qu'ils ont dû refaire... De ce que j'ai pu lire, c'est en partie de l'émulation, en partie ils ont retapé du code, notamment pour prendre en compte le reconnaissance de mouvement avec les Joy-Con et en mode portable. Parce que je rappelle
que... Il y a un bout d'écran tactile aussi.
Voilà, je rappelle que Mario Galaxy utilisait le reconnaissance de mouvement pour le pointeur et aussi quelques...
Le squash.
Quelques jeux qui demandaient de la reconnaissance de mouvement, notamment l'arrêt ou la balle. Donc il y avait 2-3 petits trucs à améliorer là-dessus. Enfin, à modifier, je pense, pour que ça passe.
Voilà. Oui, alors j'ai lu que la partie c'est pas totalement de l'émulation.
C'est de l'émulation avec du changement de texture à la volée.
Oui, mais alors j'ai lu que la partie CPU était réécrite et recompilée. Mais que la partie GPU et RAM
et audio
était émulée.
Oui, ça c'est pour audio. Galaxy. Mais...
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Excellente question.
Eh bien, c'est très simple. Ça veut dire que, basiquement, ils n'avaient pas la capacité, je pense que c'était... Je pense qu'ils n'avaient pas tout à fait la capacité de calcul nécessaire pour émuler une Wii. C'est-à-dire qu'émuler une GameCube, ça doit quand même se faire. 450 MHz. Sur un PowerPC émulé sur un ARM qui a 15 ans de plus, ça ne doit pas poser tant de problèmes que ça. Par contre, la Wii, t'as quand même plus de cadence. Et je pense que pour faire tourner Mario Galaxy, correctement sur Switch, en émulation Wii, c'était peut-être un peu compliqué. Donc je me demande si c'est pas juste une question de restriction. Après, il y a aussi la possibilité, qu'il ne faut pas négliger, que le code de Super Mario Galaxy soit plus facile finalement à recompiler sur Switch que le code de Mario Sunshine. Je rappelle que tous les projets de recompilation de Super Mario 64 sur PSP, sur PS Vita et tout ça exigent quand même des mecs qui font le portage d'aller réécrire l'intégralité du renderer, donc du moteur de rendu du jeu. Donc même s'ils ont la logique du jeu qui est là, ils sont quand même obligés d'aller retaper un sacré paquet de code pour arriver à le faire tourner. Donc point de vue-là, l'émulation, c'est quand même une approche qui permet de rentabiliser le truc.
Du coup, pour moi, ça pourrait expliquer qu'il n'y ait pas le 2. On aurait tout simplement manqué de temps pour finaliser pour le boulot qui était à faire. Quoi.
Mais du coup, c'est quand même un peu triste parce que t'en manques un, quoi. Et surtout, Super Mario Galaxy 2...
Il est parfait.
Mais c'est même pas ça. C'est que moi, quand j'ai fini Super Mario Galaxy 1, j'ai dit, voilà, si vous voulez faire une suite, vous nous faites juste 120 niveaux de plus. Super Mario Galaxy 2, c'était juste ça, 120 niveaux de plus.
Mmh. Mais on rappelle que l'un des premiers noms de Super Mario Galaxy 2, c'était Super Mario Galaxy Mort. Donc ça va bien dire la philosophie du jeu.
Oui, oui,
c'est ouais, mais après, est-ce que c'était vraiment un problème?
Bah, moi, je trouve que c'est un problème que t'es pas Super Mario Galaxy 2.
Ah, je suis d'accord, mais je pense que d'un point de vue éditorial, entre guillemets, au niveau de la compile, ça aurait été étrange d'avoir les trois jeux qui sont assez uniques et Mario Galaxy 2 qui, certes, est une excellente suite et un excellent jeu,
oui, il y avait pas de débat,
et bien meilleur que Sunshine à mes yeux d'ailleurs, oui, mais qui, du coup, a ce côté moins unique en fait que les trois autres jeux de la compile, quoi, parce que c'est une suite. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est ce qui avait un peu. À l'époque de l'annonce, c'est ce qui avait étonné beaucoup de monde parce qu'on n'était pas habitué à avoir une suite à un Mario 3D et c'était vraiment une première. Et je crois que les gens étaient un peu mal, genre, c'est une arnaque, c'est n'importe quoi, alors que le jeu, finalement, est très très bien. Hein.
Et puis ils y ont joué et tout le monde a fermé sa gueule.
C'est un peu ça. Ouais, parce qu'effectivement, Super Mario Galaxy 1 et 2, c'est des jeux qui sont extraordinaires.
Ah ouais, moi je recommande. Alors, c'est dommage qu'il n'ait pas sorti, effectivement, parce que je recommande aux gens de les faire les deux. Il arrive. Encore bah, plus le 2 si là, vous avez aimé le 1.
Voilà, si pour tous les gens qui n'ont jamais fait Super Mario Galaxy 1 ou qui n'ont pas fait Sunshine et qui seraient curieux de le découvrir, même si bon, Sunshine a beaucoup de défauts, il y a des choses très bien dedans et puis il y a des choses qui sont beaucoup plus foireuses. Enfin voilà, si vous ne l'avez jamais fait, oui, cette compilation, pour le prix que vous allez la payer, c'est un poil cher, je trouve. Mais vous avez trois jeux de très bonne qualité. Et. Honnêtement, je trouve que c'est pas si abusé que ça. Je trouve que c'est un poil cher. Avec Super Mario Galaxy 2, j'aurais pas gueulé. Là, je trouve que c'est un peu cher. Maintenant, il faut voir que là où je trouve il y a une certaine dose de fainéantise, c'est sur Super Mario 64. Parce qu'il y a quelques textures améliorées, les textes sont améliorés. Donc, c'est pas juste de l'émulation upscale 720p et merci mon cul. Attends. Il y a eu un peu de boulot.
Il y a de la vibration. Alors, j'étais persuadé que c'était un boulot, et en fait, il y a une ROM qui existe, une version japonaise, qui prenait en compte le Rumble Pack.
Tout à fait.
Et non, tu ne peux plus faire le coup de l'escalier.
Ouais.
Oui, tout à fait. Mais c'est la version. Effectivement, au Japon, en fait, il y a deux jeux qui sont ressortis en version tremble-main. C'est comme ça que ça s'appelait. C'est la version tremble-main. C'est Wave Race 64 et Super Mario 64. Qui sont en fait, à l'époque où il n'y avait pas de mise à jour et pas de DLC, les enfants, et ben c'est ce qui se passait, tu repayais ton jeu 60 balles.
Coucou Capcom.
C'est un peu ça. Et donc c'est à partir, enfin le jeu qui est disponible sur Super Mario 3D All-Stars, la partie ROM, en fait la partie code logique du jeu, vient de cette version-là, c'est pour ça qu'il y a des vibrations, et la partie asset vient de la version dite internationale. C'est-à-dire qu'en fait, la version qui est ressortie au Japon, la Shinja, je sais plus quoi, machin, donc la version vibration, n'était pas tout à fait la version internationale parce que le texte de Peach était en japonais et pas en anglais. Par contre, la version d'origine Super Mario 64 qui est sortie au Japon, je vais y arriver, vous allez voir, ça va être parfaitement logique quand j'aurai fini.
J'ai mal au crâne.
Elle est sortie sans le petit carton qui disait Peach, j'ai fait un gâteau pour toi, Mario, viens manger ma tarte au poil. Et qu'est-ce que j'ai dit? Donc bref, ce Super Mario 64 sur la version Super Mario 3D All-Stars, en fait, c'est une espèce de gros mash-up de la version internationale, la version Kid Vibration et la version d'origine. Donc il y a quand même eu du boulot là-dessus, et encore une fois, il y a des textures qui ont été upscalées, il y a des textures qui ont été retravaillées, il y a des choses comme ça, donc c'est pas non plus totalement zéro. Ce qui est très dommage, c'est que finalement, que ce soit Super Mario 64 ou... ce qui est dommage, c'est que ce soit Super Mario 64 ou Super Mario Sunshine, il n'y a pas eu beaucoup de boulot dessus.
Ah, c'est très feeling d'époque, si j'ai bien compris, ouais, en termes de caméra, de
tiers.
Non, mais là où ils ont trahi
30 images secondes.
Où ils ont trahi le feeling de l'époque, c'est qu'il y a des bugs en plus.
Quoi ?
Ah merde, j'étais pas au courant.
Et ça, c'est incroyable. Alors, vous pouvez suivre.
Dire plus, sur... qu'il y a dans Mario 64, on a déjà trouvé tous les bugs.
Ah, les cubes !
Si vous voulez, sur Twitter, il y a quelqu'un qui s'appelle...
Oui, c'est du anglais.
Mais qui s'appelle Toufool, c'est-à-dire T-O-U-F-O-O-L, qui fait du speedrun, notamment Mario 64, il me semble, qui a fait toute une série de vidéos où il montre des bugs qui apparemment n'étaient pas présents dans les versions d'origine.
Mais du coup, comme c'est une version officielle...
Bloquant, mais bon.
Pour l'instant, comme c'est une version officielle, ça pourrait être une version officielle de speedrun. Je me dis que partout où il y a des bugs, mais que c'est
ça a été un énorme débat.
Bah, techniquement, il y a des gens qui run Super Mario 64 sur la Virtual Console Wii. C'est une catégorie à part. Parce que les bugs sont là, c'est les mêmes. Mais le jeu tourne à 30 images par seconde constant, alors que c'était pas toujours le cas sur N64. Donc c'est une catégorie à part entière.
Mais d'ailleurs, cette version-là de Mario 64, il n'y a pas le backward long jump.
Oui, c'est
non,
ça.
Il n'y a pas, oui.
Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a des chances que justement les speedrunners ne l'utilisent pas trop à cause de ça, parce que ça, c'est un peu une technique classique.
Sur Super Mario 64, par contre, alors je trouve que le jeu qui bénéficie le plus de la compilation, c'est quand même Super Mario Sunshine, parce qu'il est en 16/9e. Alors, 16/9e, si vous avez un petit peu suivi le dojo ces dernières années, on vous a présenté un joli petit tuto pour faire tourner un petit logiciel qui s'appelle Swiss sur GameCube et qui permet de faire tourner Super Mario Sunshine en 16/9e sur la console d'origine sans problème. Je vous invite à aller regarder ça, vous pouvez faire 2-3 petits trucs un peu rigolos. Mais voilà, le jeu il est en 16/9e et c'est un upscale un peu particulier puisqu'en fait c'est pas juste le rendu d'origine upscalé, c'est vraiment le rendu GPU de la GameCube qu'on a remis au goût du jour. Et donc il y a quelques niveaux dans lesquels je trouve que ça aide bien. Je pense notamment au parc d'attractions de Super Mario Sunshine.
Je pensais au port, moi.
Le
dès
port
le deuxième
aussi.
Niveau, quoi,
oui. Ouais, effectivement, le port aussi, ça aide un peu. Je trouvais ça plus... Ah oui. C'est moins bordélique visuellement, parce que c'est du 720p. Donc effectivement, tu as moins de cette espèce d'effet de scintillement que tu avais sur GameCube. Ça rend le niveau un peu plus lisible, mais je trouve qu'il y a des niveaux où en fait tu vois beaucoup mieux l'ensemble du niveau. Et du coup, ça aide mieux à l'appréhender.
Ouais, je suis d'accord.
Donc, je trouve que le jeu qui bénéficie le plus de ça, c'est Super Mario Sunshine. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, c'est le moins bon de la compilation. Parce que, enfin voilà, finir Super Mario Sunshine à 100%, bah écoutez, bon courage.
Je l'ai fait.
Et il y a un truc qui s'appelle le Phénix de Sable.
Oui, je l'ai fait aussi. Voilà. C'est le dernier niveau.
Hein. Oh, c'est pas le pire.
Si, parce que lui il est obligatoire si tu veux finir le jeu.
Non mais je trouve que ça se fait assez bien le dernier niveau. Non, bah il y a des trucs...
Mario Sunshine...
Les alors... pièces bleues quoi, je veux dire c'est...
Vous sauvegardez.
La Benoki.
Ah mais il y a plein de trucs qui vont pas dans Mario Sunshine. Hein. C'est un jeu qui est... Qui est pas bien fini on va dire. Pour être gentil.
Ils ont bourré, c'est quoi, il faut 10 pièces bleues pour avoir une étoile, et t'as genre une quarantaine d'étoiles, une quarantaine d'étoiles.
Je crois que c'est 40 étoiles, c'est les pièces bleues, soleil, pardon.
40 étoiles, pas...
le soleil 40... est une étoile.
40 soleils pour les pièces bleues, donc ça veut dire que t'as que, enfin, dans Mario 64, t'avais 120 étoiles, et là, t'en as 80, quoi.
Ouais,
parce que les pièces bleues, c'est pas une vraie quête. Hein.
Et en plus, alors les pièces bleues, t'en as, elles sont cachées, si tu sais pas quelles sont là, tu les trouveras jamais, genre typiquement, faut arroser des panneaux, qui n'ont aucune différence avec d'autres panneaux qui sont exactement identiques. Il faut arroser celui-là précisément pour avoir la pièce bleue.
Mais dans le même temps, t'as une maniabilité au poil de cul, t'as des trucs très rigolos, t'as Jet qui est quand même marrant à manipuler, t'as les niveaux sans Jet qui sont quand même excellents et qui inspireront Super
cool.
Mario Galaxy.
Ouais, pour le coup, c'est peut-être le meilleur apport de Mario Sunshine à la franchise. Hein.
Ouais, tout à fait, non mais... T'as une ambiance un peu particulière, t'as une musique bien...
Ah, les musiques sont vraiment
bien
cool,
tripantes.
Contre, hein.
Non, je trouve que... Enfin, tu vois, c'est triste, finalement, parce que je comprends pourquoi les gens l'aiment pas, je comprends pourquoi, effectivement, il est pas terrible. Il y a quand même une catégorie de speedrun qui est finir le jeu, mais sans les pièces bleues, pour te dire à quel point c'est la galère. Mais en même temps...
Bah, en fait, c'est un jeu, je pense, qu'il y aurait eu... Pour le coup, c'est un jeu qui aurait peut-être mérité un traitement Wind Waker HD, avec pas forcément une refonte du level design et compagnie, mais peut-être, justement, une... Quelques ajouts pour faciliter la vie du joueur, genre dans Wind Waker il y avait la voile rapide et la quête de la Triforce qui était simplifiée en termes de recherche.
Moins chiante.
Mais du coup, peut-être que Mario Sunshine lui aurait bénéficié de ce genre de choses avec une caméra améliorée, une maniabilité un petit peu mieux. Quoi. Ouais, voilà, typiquement.
Oui, typiquement. Ouais.
Et certains challenges un petit peu moins, radical dans leur conclusion. Bah notamment je pense à la Raymanta notamment
oui, la Raymanta, c'était fou.
Nettoyage de la plage en temps limité qui se finit au poil de cul et tu peux vraiment louper genre un bout de merde quelque part
ce truc là il est infernal.
Ah, j'ai bloqué
je crois que c'est un des pires.
J'ai bloqué là-dessus. Hein. Il y a plein de challenges dans le jeu en fait qui mériteraient pas forcément d'être simplifiés, mais au moins d'être rendus moins frustrants au niveau de l'échec, parce que quand tu perds une vie, tu recommences tout. Et tu sors du niveau, tu dois revenir dans le niveau, t'as le temps de chargement, tu dois retaper les dialogues.
Ouais. C'est vrai qu'il y a... Et encore, il me semble que la version... Alors là, on a eu la chance en Europe d'avoir une version corrigée, notamment du truc avec la Raymanta.
Ouais,
version moins difficile que la version jeu.
Ça, c'est l'époque où les jeux ils sortaient après en Europe, du coup ils corrigeaient des trucs dedans.
Enfin, voilà, donc, du coup, c'était quand même vachement pratique. Du coup...
Et bah, Galaxy, il est en 1080p, 60 FPS, il n'y a plus de crénelage, les musiques sont toujours excellentes. La maniabilité, du coup, le pointeur, alors j'ai joué qu'au pad pro, ça se gère pas trop mal au gyro.
Ça se gère au gyro, c'est un peu surprenant au départ, mais ça marche pas trop mal. Ce qui est intéressant, c'est quand t'es en portable, parce que tu peux gérer au tactile. Et pour les étoiles bleues que tu attrapes, ouais, c'est au tactile, c'est assez
ça
agréable.
Doit être cool. Mais pointer les petites merdouilles à récupérer, là, il te faut une troisième main, du coup.
Oui, effectivement, oui, ça c'est pas jouable. Alors après, t'as toujours une option pour jouer à deux joueurs, qui était le cas de Galaxy. Option qui était très sympa, puisqu'en fait, l'idée c'est que le second joueur, en fait, il fait une main qui peut bloquer les ennemis, ramasser les merdouilles, tirer sur des trucs. Enfin voilà, c'est vraiment le joueur 2, hein, au sens.
C'est Capi.
Il fait pas grand chose. Alors Capi, il fait beaucoup plus de trucs que ça.
Ouais, beaucoup, c'est même moins que Capi. Alors.
C'est moins que Capi. Par contre, si pour de jeunes enfants ou si le gamin veut venir aider alors que t'es en train de jouer, ça peut éventuellement leur plaire, parce que c'est vrai que bon, c'est rigolo, ça permet de faire des tricks un petit peu plus marrants, ça permet d'aller ramasser des vies, enfin d'aider vraiment le joueur 1.
Ouais, ça donne en fait l'impression à la personne qui est pas forcément à l'aise contre les personnages au moins de participer et d'aider. Genre en récupérant les fragments d'étoiles et compagnie.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, deuxième joueur met la main sur l'écran pendant que tu essayes de jouer. Oui, voilà, ça se passe drôlement bien. Bref.
Mais... C'est ton chat, le deuxième joueur, en fait.
Ça peut être ton chat, le deuxième joueur. Voilà, donc, Super Mario 3D All-Stars. Je vais avoir du mal à le recommander. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il est disponible en quantité limitée.
Ouais, les connards.
Bien, mais pas top.
Voilà, donc à partir du mois de mars, il ne sera plus disponible et en magasin. Et sur la boutique en ligne.
Bon, de toute façon, faut pas rêver, il baissera pas de prix. Hein, je veux dire,
Ah, il aura pas le temps.
Nintendo a inventé l'exclu temporaire physique.
Putain, ils sont balèzes quand même. Hein, parce qu'ils ont inventé l'exclu temporaire sur leur propre console.
C'est même plus physique, c'est l'exclu temporaire de disponibilité. On a un autre niveau. Hein.
Ouais, non, là c'est chaud.
Enfin, ils vont faire quoi, ces invendus? Ils vont les foutre dans le désert?
Non, mais il y aura pas d'invendu.
Il y aura pas d'invendu.
Ils vont les recycler comme les pins du MEDEF.
Ils ont fait un stock. Ils ont juste attendu qu'il s'écoule.
Ah si, il y a les OST en bonus.
Il y a les OST en bonus. Enfin oui, ça fait plaisir de pouvoir écouter les OST. Mm. Surtout, alors l'OST de Super Mario Galaxy était disponible sur le Nintendo Club.
Ouais,
Nintendo
sur CD.
Machin, en CD, moi je l'ai aussi.
C'est la même jaquette, t'as vu, ça fait plaisir.
Exactement. Par contre, les deux autres n'étaient sortis qu'au Japon. Donc du coup, ça fait plaisir, parce qu'effectivement, tout ça est accessible, et dans des versions avec un très très bon rendu. Donc voilà. Nintendo, une bonne idée des prochains jeux, tu fais ça, tu mets un sound test quelque part dans les options, ou tu nous laisses écouter les musiques du jeu. Et parce que ça, c'est une bonne idée.
Il commence à faire pas mal, ça sur pas mal de jeux, non? Enfin, Smash Bros, il y en a un, Fire Emblem, il y en a.
Oui. Fire Emblem, oui. Mais
après, c'est genre Paper Mario, il y en a un, mais c'est pas dans les options du jeu, c'est genre dans le musée.
Oui, voilà. Mais tu en as dans certains cas, mais
attends,
c'est vrai que c'est
pas des jeux développés en interne. Je crois que j'ai la réponse à la question.
Peut-être que c'est ça. Bref, on va s'écouter un petit morceau de la bande originale de Super Mario Galaxy. Je pensais qu'on l'avait déjà passé dans un dojo bar et on ne l'a jamais passé. C'est le meilleur morceau de la bande originale de Super Mario Galaxy. C'est le meilleur morceau de l'histoire du jeu vidéo de tout
Mario. Garden.
Ghosty ouais. Garden Galaxy. Mais
le bruitage quand tu cliques sur A,
c'est
incroyable.
Voilà. Ghosty Garden Galaxy,
les cris des loups.
Mais attention, la version Smooth Back Groove.
Oh oui.
Et voilà. Alors là, je vous ai tué, ça dure 4 minutes et on se retrouve tout de suite après.
Le barbu qui chante. Thank you.
nous voilà de retour. Et on va finir, on va essayer de finir pas trop long. Ça va être un peu compliqué.
Bah, quoi que court, pense, sur la partie d'avant.
Bah, on a fait court sur 3D All-Stars, hein. C'est juste un petit quart d'heure. Donc,
ah ouais, mal que ça. Qu'on a fait plus.
C'est bien, c'est bien. Et beaucoup d'actu, en fait. Ouais. Donc on va finir avec Paper Mario and the Origami King. Alors donc pour les mauvaises langues, on commence tout de suite par un truc, hein, donc c'est pas un portage de Color Splash.
Et ouais.
Et voilà, dans ton
cul. C'est un nouvel épisode.
C'est un vrai nouvel épisode de Paper Mario. Bah,
et Vlan.
Et voilà, tout à fait.
Tu te les rageux.
Les chiens peuvent ravaler leur gamelle de fiel.
Ah, elle est pas mal celle-là. C'est pas
quoi.
Moi, j'avais...
Ça vient de Groland.
Je précise pour les gens qui nous écoutent, mon anniversaire c'est donc le 17 juillet. Et je veux un t-shirt Nut Nut Motherfucker avec Pingu dessus.
Ok.
C'est le t-shirt que je veux.
Attends, mais le 7 juillet c'était pas la sortie de Paper Mario?
Bah oui, c'est le jeu de mon anniversaire.
Oh.
Du coup, j'ai commencé à y jouer il y a une semaine.
Armol,
le temps de ranger tout l'appart,
toute la baraque. Je vous raconte pas le bordel. Hein. J'ai envoyé une petite photo à mes petits camarades pour leur montrer la GameCube qui trônait toute seule dans le Kallax. Mais voilà, on en était à peu près là, aux alentours du 15 août. Donc, et d'ailleurs, j'en profite. Une phrase de mes enfants qui voilà, c'est là que je vois que j'ai des enfants formidables. Super papa, t'as rebranché la Wii U. Je pense que c'est vraiment les seuls qui sont contents de revoir la Wii U.
J'arrive pas à savoir s'ils sont genre sarcastiques.
Non, c'est pas sarcastique, ils étaient vraiment contents. Voilà, ils étaient vraiment contents parce qu'ils pouvaient jouer à Super Mario Maker. Ensuite, je leur ai expliqué que Super Mario Maker 2, il était juste là. Ils ont fait ouais, mais la version GameCube, la version Wii U, c'est mieux. Je suis d'accord.
Ils ont pas tort sur certains points.
Sur certains points, ils ont pas tort. Bref. Donc, Paper Mario and the Origami King. Donc, l'histoire, ça va être...
Vas-y, éclate-toi.
Toujours développé par Intelligent System.
Tout à fait.
Intelligent avec des guillemets.
Oui, Intelligent System, parce que ça devient... Voilà. Donc, Peach a été ensorcelé, le royaume champignon est menacé, et tout le monde se plie en quatre pour mettre des bâtons dans les roues de Mario, enfin surtout de Luigi. Bref, il y a un monsieur qui commence à plier tous les gens, qui fait de l'origami en fait. Il s'appelle Holly, et sa sœur Olivia.
Alors, le mieux reste que la justification pour laquelle il a amorcé tout ça.
Oui, c'est vrai.
C'est parce qu'il voulait plier tous ses taux de bruyant jusqu'au dernier.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est le grand taux de placement.
C'est ça.
Bref. Donc, effectivement, il commence à plier tout le monde, et donc, Pepe, c'est à Mario de sauver tout le monde en essayant de désenrubaner le château de Peach.
Oui, alors, parce que, comme d'habitude, hein, le château de Peach, il a été enlevé. Papa Bowser, pour une fois, qui lui s'est retrouvé plié en quatre.
Oui, bah, qui s'est retrouvé origamifié comme tout le monde.
Il est vraiment plié, genre comme une carte de château de cartes. Hein.
Oui, c'est vrai.
Dès le début, c'est prétexte à des blagues. C'est avance moins vite parce que moi, je marche sur mes gencives.
Le plus drôle reste le moment où Peach arrive avec Bowser qui suit Mario, et pendant que Peach parle, tu as Bowser derrière qui se fait des petits commentaires. Ah, faut pas qu'elle me voit comme ça, c'est vraiment la honte. Hey, d'habitude, c'est moi qui dois l'enlever.
Oui, voilà. Non, mais t'as plein de trucs. Mais même, je sais pas si tu vois quand t'es en combat, les commentaires des taudes dans le public.
Oui.
Putain, il y a des trucs complètement pétés, quoi. Non, mais le jeu est assez génial, faut quand même reconnaître. Le côté humour, c'est la folie.
Ah, mais l'humour est incroyable.
C'est Paper Mario là où Bowser n'est pas le méchant, donc du coup, c'est souvent plus drôle. Parce qu'il devient vraiment le dindon de la farce du jeu.
C'est exactement ça, en fait. Bon, bref, donc l'histoire, effectivement, c'est qu'il y a un méchant qui s'appelle Holly, qui fait de l'origami en fait avec tout le monde et qui a plié tous les Toads. Et donc, quand on débarque à Toadville, c'est une ville fantôme. Et il va falloir aller désenrubanner le château de Peach qui a été enlevé, aller couper les grands rubans pour libérer tout ça et arriver à battre Holly, je suppose, à la fin. J'ai pas encore fait la fin.
Oui.
Je suppose qu'il faut battre Holly.
Il est long, boss de fin.
Tout à fait. Et on est assisté d'Olivia, qui est donc la sœur de Holly et qui est aussi en origami, et qui va avoir des pouvoirs spéciaux. Je ne vais pas spoiler les pouvoirs spéciaux qu'elle a, parce que...
C'est épique.
Voilà.
À commencer par avoir le pouvoir spécial dit de Navi, qui consiste à vous donner une indication et à parler.
Elle est quand même un peu moins relou parce qu'il faut juste appuyer sur X pour avoir une indication si on en a besoin.
Oui, ses conseils sont pas cons.
Et puis de manière générale, en tant que personnage, elle est plus intéressante que
faille, pour citer la pire d'entre tous.
On est d'accord.
Dans le sens où elle a vraiment de la répartie et des choses, vraiment des scènes amusantes dans le
tout
jeu.
Tout à fait. À chaque fois qu'elle s'assoit sur un banc et tout ça, il y a toujours une petite remarque rigolote. Elle a vraiment, les dialogues sont à mourir de rire, il y a vraiment des trucs.
Ah oui,
l'exemple que citait Galaxis pendant la première pause, à un moment on tombe sur un bobombe qui s'appelle Bobby.
Ah, qui s'appelle Bobombe, mais qui se fait surnommer Bobby, contre
donc,
sa volonté.
Ce qui est génial, c'est qu'Olivia, à un moment, elle fait « Eh, faut qu'on aille chercher Bobby !» Moi, juste ça, ça me fait rire. Parce que Bobby, c'est le... comment dire... c'est le prénom de l'utilisateur lambda chez nous, quand on... ils s'appellent tous Bobby. Donc, si tu veux aller chercher Bobby, c'est un peu ça. Bref, donc elle va chercher Bobby, et en fait, elle lui demande, enfin, il faut aller sur une barque et il faut ramer. Bobby dit, ouais, c'est bon, je vais ramer. Puis à un moment, il revient vers Pepper Marley. Mais en fait, j'ai oublié, j'avais pas de bras. C'est une vraie
mort de rire, elle est incroyable.
C'est ça revient très souvent, cette vanne.
Celle qui m'a tué, tant qu'on est dans les spoils de vanne, faut pas hésiter à parler avec les PNJ, ils ont souvent des blagues à la con. Tu parles avec un Koopa lambda, il te fait, c'est incroyable ce que t'as fait, je pense qu'on va en faire un film. Les gens vont aller le voir et personne va aimer.
T'as plein de trucs comme ça. Il y a un des temples, qui est le... alors je sais plus lequel, mais je vais pas spoiler. Alors en fait, un des trucs de ce Paper Mario, c'est qu'on récupère des confettis, qui sont en fait des morceaux de papier, et qu'on peut les jeter pour combler des morceaux de décor. Alors ça permet des fois de... il y a des endroits où on peut pas passer, il faut jeter des confettis. Alors ce qui est génial, c'est quand tu jettes les confettis, t'es censé faire un cri, tu sais, de joie. Et on te laisse le choix du cri de joie. C'est pareil, c'est absolument génial. Le truc est vraiment au 20e degré au possible.
Et puis il y a des trucs aussi assez drôles. Enfin, à la fin du chapitre 2, tu te retrouves dans une espèce de théâtre où tu dois jouer.
C'est bon ça.
Et c'est vraiment une super scène. Et à un moment, t'as des masques en tutu. C'est à mourir de rire ce moment. Mais il est aussi incroyablement bien fait.
Et moi, il y en a un que je trouvais incroyable. Il y a un moment où tu jettes des confettis puis tu découvres une porte. Tu rentres dans la porte et en fait c'est une espèce de bar clandestin.
C'est trop bien.
Il y en a plusieurs, c'est le café des sbires de Bowser.
Et donc
il y en a un par ruban.
Il y en a un par ruban. Putain, j'ai pas trouvé le premier ruban, du coup j'ai trouvé que le deuxième. Faut que je retourne faire le premier. Et donc t'as un Koopa qui te sert un café. Déjà t'as une petite musique jazz et tout. Enfin le truc est complètement décalé. Et t'as un Maskass et un Goomba qui sont en train de se foutre sur la gueule en mode hey, c'était qui le meilleur ennemi, tu vois. Mais genre, c'est la pause café, donc c'est assez fou. Et puis, je sais pas, les mecs se foutent sur la gueule, et puis à un moment, il y a le Koopa qui fait « Oh les gars, c'est bon quoi, on s'en fout. Fais pas attention à eux, Mario, ils passent leur temps à se disputer, mais t'inquiète pas, on est tous faits du même papier. » C'est génial, cette putain de remarque, on est tous faits du même papier, quoi. Le truc est juste... Il y a plein de conneries comme ça, c'est gigantesque.
Il y a beaucoup de cassages de quatrième mur. Je crois qu'à un moment, il y a un taux qui te fait ah bah merci de m'avoir sauvé, du coup je vais rester ici jusqu'à la fin du jeu.
Oui, nature.
C'est exactement ça.
Ça passe tout seul, c'est trop naturel. Et moi, un autre moment que j'ai bien aimé, alors je trouve que le chapitre 1 est assez sympa. Il met un peu de temps à démarrer, mais vraiment, le chapitre 2, quand tu arrives donc sur la montagne, il y a vraiment des super scènes. Et une que j'ai vraiment adoré, c'était avec le Maskass qui a une guitare et un sombrero. Et qui veut faire une fête de la conserve.
L'ouvre-boîte, putain, c'est bon, ça.
C'est génial.
Et t'en vas chercher son pote qui a l'ouvre-boîte et qui l'a oublié comme un con. Voilà, c'était pas mal.
Bref, mais voilà, là, mais c'est... Le côté jeu d'aventure qu'on avait dans Color Splash, il est hyper réussi. Le côté exploration-aventure, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver les toads qui sont planqués dans le décor. Alors, dès que tu vois un papillon, tu peux taper dessus avec ton marteau, hein, c'est un toad.
Oui.
Je te donne une astuce, hein, c'est gratuit, c'est pour moi. Mais tu vois, t'as plein de trucs à découvrir en fait dans le décor où effectivement tu vas jeter des confettis pour récupérer des pièces ou découvrir des morceaux de décor ou découvrir des portes secrètes. Mais t'as plein de toads à libérer en fait, qui sont parfois hyper bien planqués d'ailleurs. Et ça, c'est super marrant, le côté aventure est super marrant. Le problème...
C'est les combats.
Ah, mais pas tous.
Pas les combats de boss.
Mais ça c'est un
truc. Not all fightings.
Ah, en fait, c'est un truc que je. Alors, j'ai pas fait Color Splash, mais c'était déjà le cas en Seeker Star. C'est-à-dire qu'on avait un jeu sur la partie exploration-aventure qui a plein de bonnes idées. Et je trouve que dans Origami King, ils se sont vraiment fait un super taf. Hein. Je passe des super moments dans la partie aventure.
C'est clair.
Mais comme les combats maintenant, depuis Seeker Star ne rapportent plus d'expérience, ils ne rapportent pas finalement grand-chose d'intéressant, t'as pas trop d'intérêt à les faire. Le problème, c'est que, pas toujours évitant de les esquiver. Du coup, c'est pas passionnant. Ça fait vraiment rallonge.
Les combats
de base.
Les combats de base, donc le principe du combat de base, c'est que les ennemis sont disposés sur un disque, enfin sur plusieurs disques concentriques.
C'est un système super intéressant en soi, hein, je trouve.
Qui est pas idiot parce que de temps en temps, t'es vraiment obligé de réfléchir. Le problème, en fait, c'est la deuxième partie, quoi. C'est que.
T'as pas énormément de choix au niveau de tes attaques, t'as pas vraiment de variété. Comme dans les anciens Paper Mario, vu que Mario reste justement tout seul.
Est-ce qu'on peut arrêter avec les taquins, s'il vous plaît? Il y a des gens qui sont en train d'envoyer des messages vexants à propos des taquins. Donc, on va être obligé de faire la parenthèse taquin. Donc oui, le taquin est un vrai problème et un traumatisme pour moi. Je rappelle que dans Resident Evil 4, il y a un taquin à un moment. C'est la partie du jeu sur laquelle j'ai le plus coincé. Et je suis très sérieux, hein, j'ai dû passer genre 25 minutes à faire le taquin.
Non mais j'ai horreur de ça, hein, je comprends.
Et donc là, effectivement, il y a un des temples de l'esprit. Alors c'est pas de l'esprit, hein, c'est l'esprit. Puisque c'est du papier.
Non, pas l'esprit, non.
Non plus, oui. Dans lequel il y a un taquin, et c'est juste, ça a été l'horreur. Moi, le truc, il m'a donné la solution. Moi, vas-y, t'es trop con, vas-y, je te donne la solution.
Non, mais c'est ça. Il y a plusieurs endroits dans le jeu où il y a des petites énigmes, mais si tu les foires trop souvent, ils te donnent de bons gros indices, le jeu.
Ouais, clairement, enfin, ils te bâchent le truc, quoi. Mais bref, enfin bon, pour revenir sur les combats, maintenant que la parenthèse taquin est terminée. En gros 4 disques concentriques, et ce qui se passe, c'est que tu peux tourner les ennemis de sorte à essayer de les aligner le mieux possible pour pouvoir soit les taper avec un marteau, soit les taper avec des bottes. Et le problème, en fait, c'est que il y a peut-être d'autres attaques après, mais moi j'ai que ça pour l'instant.
Tu peux les tourner, les décaler, hein, je sais pas si
voilà, tu peux les faire glisser en fait, et les faire tourner. Et l'idée, c'est que bah, si t'arrives à faire un groupe de 4, tu vas pouvoir les taper avec le marteau, ce sera super efficace. Si t'arrives à faire une ligne, tu pourras les taper avec les bottes et ce sera super efficace. Mais le truc chiant, c'est que finalement, t'as deux attaques, quoi. Enfin,
t'as
je sais pas s'il y en a d'autres après.
T'as des objets, genre les fleurs de feu ou les queues de tanuki qui peuvent t'aider.
Tu les utilises.
Tu les gardes pour le dernier boss.
Comme toujours.
On est d'accord, parce que je suis arrivé à la fin du jeu, je me suis dit, ah merde, putain, c'est vrai, il y a des objets.
Oui, non, mais voilà. Mais du coup, les combats, tu finis par faire Super Paper Mario évitement.
Et puis...
Oui, alors après, une fois que t'as... Alors tu levels pas, mais quand tu gagnes des cœurs, qu'il faut augmenter tes PV, Oli va te dire, tiens, c'est marrant, je te trouve plus baraqué qu'avant. Et les petits Goombas de merde...
Ce qui quand même fait être...
Les petits Goombas à la con que tu croises au début, tu leur sautes dessus ou un coup de masse et ça zappe le combat, quoi.
Oui, c'est-à-dire que les mecs sont pas trop cons non plus, mais ça fait que les combats sont hyper redondants, pas très intéressants, heureusement relativement rapides.
Rapide. Alors l'intérêt, le seul intérêt qu'il y a en termes de boucle de gameplay, c'est que tu vas gagner de la thune. Masse de thunes, il y en a vraiment un paquet dans ce jeu.
T'as 10 000 pièces au bout d'une heure de jeu. Hein.
C'est ça, et par contre tu vas les cramer très vite, un peu plus tard dans le jeu.
Ah oui, parce que le royaume champignon, ils se sont pris une inflation de malade depuis.
Avant d'arriver...
C'est cher. Hein.
Avant d'arriver, alors je sais plus quel ruban, essaye de garder 30 000 pièces sur toi. Sinon tu vas te retrouver à devoir farmer des combats et ça m'aurait cassé les couilles. Quoi.
Ouais. Voilà. Par contre,
et donc ça te permet d'acheter des solutions. Quand tu es sur un puzzle qui te prend la
effectivement.
Tête.
Bah, tout est payant, en fait. Mm. Ça un peu comme dans la vraie vie. Et, ce qui est intéressant, par contre, c'est que du coup, pour les combats de boss, ça devient beaucoup plus intéressant, puisque là, sur les disques concentriques, avec des cases, tu vas avoir des mouvements et des actions, et il va falloir essayer de ne pas se louper, c'est-à-dire... Amener Mario en fait le plus proche possible du boss et avec une case qui lui permette d'aller taper sur le boss. Et ça, je trouve que les combats de boss sont vraiment pas mal en l'occurrence.
Ouais. Et ils se renouvellent tout le long.
Ouais.
En plus, ouais.
Il y a ça, c'est le côté que je trouvais sympa dans Sticker Stars. Il y avait un côté énigme. Alors Sticker Stars était un peu forcé parce qu'il fallait avoir le sticker qui te permet de gagner, sinon tu avais zéro chose possible. Enfin, t'avais vraiment zéro chance de gagner. Et là, en fait, t'as plusieurs options à ta disposition, vu que tu peux avoir les attaques normales, mais aussi alors, le pouvoir un peu rigolo du jeu, qui est Mario, qui se retrouve avec des bras pliés en origami pour pouvoir choper loin. Ça devient un personnage de Arms, en gros, pour faire une idée. Et tu vas avoir aussi les fameux esplis qui peuvent être appelés en combat. Et du coup... Et en fait, pour vaincre ces ennemis, ben, tu vas avoir ces trois options à ta disposition et il faut essayer de comprendre en fait, laquelle va te permettre de passer cette phase du boss, parce que généralement ils en ont au moins deux, voire trois.
Ouais.
Donc c'est vraiment intéressant et les boss en plus, ben, vu que tu as les options voilà, de pouvoir soigner, de pouvoir appeler les taudes pour t'aider, il y a vraiment. Moi je trouve que c'est les meilleures parties, hein, clairement. Là j'ai fait les deux premiers chapitres où vraiment les deux premiers boss étaient.
Donc t'as vu le. Enfin, le champ lexical, c'est pas le bon mot, mais la catégorie des boss.
Oui, oui, bah.
Ils ont fumé.
Oui, mais c'est génial, moi je trouve ça génial. J'étais mort de rire sur le premier, le second aussi m'a éclaté.
Non, mais les boss, ils sont. Enfin, c'est juste.
Ah, bah, c'est des super.
C'est super marrant.
C'est super drôle. Mais c'est bien, c'est vraiment dans le délire du jeu, qui a vraiment un délire absurde. Mais du coup, ouais, clairement, les boss, moi, j'en redemande. Et limite, je préférais qu'il y ait. Voir peut-être voilà, le double du combat de boss, mais qu'on n'ait pas de combat normaux.
Bah, en fait, s'il
je
y
pense
avait...
que je m'éclaterais vachement plus.
S'il y avait juste, effectivement, des salles avec des petites énigmes, tu sais, j'allais dire façon Zelda, pas tout à fait, mais. Si effectivement t'avais juste des petites énigmes qui te permettent de résoudre la grosse énigme du donjon sans combat et que t'avais un boss derrière, honnêtement ce serait... Moi, limite ça me plairait plus, une espèce presque de mode boss rush on va dire. Parce que c'est pareil dans les donjons et dans les petites énigmes et tout ça, il y a quand même y a aussi des choses intéressantes. Hein.
Ouais, ouais.
Aussi des choses très rigolotes et très malines des fois parce que, comme souvent dans Paper Mario, ça va jouer sur le fait que t'as un personnage en 2D donc il peut se glisser dans des fentes ou des choses comme ça, que c'est pas vraiment de la vraie 3D, que... Enfin... Il y a... tout un tas de trucs qui se jouent avec le fait que cet univers est un petit peu bizarre, quoi.
Oh, et... le désert, c'est incroyable, là-dessus.
Ah, j'ai pas encore été au désert.
Ah bah, vous verrez, c'est bien foutu.
Voilà, mais il y a tout un tas de super bonnes idées.
Je sais pas s'il y a pas une blague, d'ailleurs. Je sais pas s'il y a pas un PNJ... Il me semble qu'il y a un PNJ qui dit « Bah, bienvenue, d'habitude, c'est le monde 2, mais ça arrive que maintenant, quoi.
» Ce qui est bien dans ce délire, enfin... C'est vrai qu'on d'un point de vue, oui, dialogue, ambiance, humour, c'est quand même, enfin, c'est assez éclatant, quoi. Tu passes un bon moment, tu vois pas le jeu passer. Effectivement, tu prends plaisir à parler au PNJ parce qu'il y a toujours une blague, un truc. Les Toads, ils sont complètement pétés dans celui-là aussi.
Ah oui, oui.
T'as quand même un Toad qui est origamifié en insecte. Et quand tu tapes dessus, donc pour le désorigamifier. Pour le déplier, en fait, il dit putain, je savais pas que j'avais si bien escaladé, et puis il continue à être sur le mur comme ça.
Oui, ils ont une espèce de syndrome post-traumatique de leur vie en animal origami.
Voilà, c'est assez ouf quoi. Le singe qui mange du thon, enfin, t'as tout un tas de conneries comme ça qui sont assez éclatantes.
Ouais, ils sont pas mal plaisir. Alors, des fois, ça fait un peu. Comme ils prennent le temps justement de mettre en place un petit peu leur délire, hein, des fois, t'as l'impression que tu vas avancer et en fait, tu te retrouves à devoir gérer une. À devoir faire un détour pour pouvoir gérer une quête, genre typiquement le singe avec le thon, hein, tu dis c'est bon, j'ai rempli la flotte, je peux monter dans la barque, ah bah non en fait il me faut le rameur, mais sauf que c'est le singe.
J'ai cru que t'allais parler de ce qu'il y a juste après la montagne, où je me disais ok, donc ça va être le niveau un peu
non,
tonal.
Non, celui-là non, d'ailleurs je suis sur ce passage-là et je m'attendais pas, je trouve assez intéressant.
C'est ça, je m'attendais à un truc, putain, tu rentres là-dedans, tu dis ok, ça va être la parenthèse remplissage, et non, c'est génial.
Ouais, là je suis quasiment sur la fin de cette phase. Mais c'est vrai que parfois t'as un peu cette impression. Et je pense que ça passerait beaucoup mieux s'il n'y avait pas justement le risque de devoir faire des combats en rab.
Oui.
Je trouverais que ça ferait moins remplissage. Alors qu'en fait, non, ça l'est pas. C'est genre vraiment des scènes rigolotes. Enfin, typiquement, l'histoire du singe avec le thon, bah, c'est là où tu rencontres le mascasse avec son sombrero et sa guitare. Moi, j'ai adoré ce passage. C'est un de mes préférés pour l'instant.
Non, mais il y a des trucs quand même bien délirants. Enfin voilà, je pense que c'est un jeu qu'il faut faire. Il faut faire pour l'histoire, pour l'ambiance et pour le côté finalement aventure. On avait déjà dit pour Color Splash que le jeu lorgnait clairement sur le côté aventure et que le côté RPG était vraiment très en retrait. Alors, c'était déjà le cas, je me semble, de Super Paper Mario sur Wii où t'avais pas du tout de côté RPG. Parce que c'était un jeu de plateforme en fait.
Il y avait une séquence RPG qui était parodique avec le nerd.
Oui, effectivement, oui, je me rappelle de ce truc-là. Enfin, je me rappelle l'avoir vu. J'ai pas fini Super Paper Mario, en fait. J'ai vraiment fait juste le tour.
Ouais, c'est vrai que pour le coup, il y a un côté un peu Super Paper Mario avec les délires un peu comme ça. Mais alors, pour avoir revu un mec jouer à Super Paper Mario récemment, je trouve que dans Origami King, c'est mieux maîtrisé et ça part moins dans tous les sens. Ça reste plus cohérent, en fait, dans son humour et son univers, alors que Paper Mario, enfin, Super Paper Mario, il allait vraiment dans tous les sens et parfois, t'étais complètement perdu. Enfin, L'otaku était très drôle. Je crois qu'il y a une phase, c'est genre le monde 5 avec les hommes préhistoriques qui ressemblent à. Qui ont tous un visage, genre des vieux logos de Mac. Où t'es. Là, vous allez trop loin, les gars.
Et là, celui-là, ben, sans vous dévoiler le truc, c'est un peu plus étalé. Elles sont plus. Enfin, du coup, elles sont plus surprenantes, mais il y a des séquences qui sortent complètement d'un Paper Mario. Tu auras une séquence d'un certain type, une séquence d'un autre type, et ça fait plaisir, ça casse un peu le rythme du jeu, mais dans un bon sens, quoi. Ça renouvelle la sauce, et des petites séquences bien foutues, comme ça, jusqu'à la fin.
En tout cas, un jeu qui fait plaisir, malgré tout.
Et un truc que j'adore avec cette série, c'est que là, tu ne pourras jamais dire qu'ils ont été feignants. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ils réinventent leur sauce.
Bah, de toute façon, ne serait-ce qu'au niveau de l'histoire et de ne serait-ce que le travail d'écriture dessus, c'est un peu la folie, quoi. Parce qu'ils arrivent à être drôles en étant second degré sans jamais trop se renouveler, avec plein de blagues à la con sur la 2D, la 3D, le papier, le fait de se plier, de se couper, de machin. Il y a quelques recyclages de blagues, mais pas tant que ça, hein. Franchement.
Et puis c'est pas de l'humour lourdingue, je trouve. Enfin, vraiment le coup du bras du bobomb là dont on parlait tout à l'heure, moi, ça m'a fait hurler de rire parce que je le voyais venir et j'étais là, oui, tu vois, fallait le faire.
Oui, tu l'as fait.
J'annonce donc l'ouverture de ma cagnotte Litchi.
Pour se payer Paper Mario.
Et dernier petit point, j'adore les musiques du jeu. Enfin, je trouve que l'ambiance artistique est vraiment très réussie. Mais ça c'est un truc qui a toujours été bizarre dans Paper Mario, je trouve. Mais là, j'adore vraiment les musiques. Enfin, le thème de combat du chapitre 2 est vraiment génial. Et même en niveau DA, ils maîtrisent leur DA papier, carton. Et je trouve que plus ça avance, plus ça fait naturel. Et on parlait du mélange des genres et compagnie. Bah, je trouve que ça marche de mieux en mieux dans le sens où il y a un côté do it yourself, mais aussi très naturel et qui colle vraiment. Qui donne vraiment l'impression que c'est un univers qui existe.
Un vrai univers qui existe.
Il y a un truc moi qui m'a choqué. De temps en temps, t'as des choses qui sont complètement décalées.
Qui sont réalistes.
La flotte.
La flotte dans le temple de l'esprit de l'eau.
Oui, des fois, mais waouh, réaliste. Et après, elle passe en cartoon.
C'est ça.
Exactement, mais c'est parce qu'en fait, elle est enchantée, c'est pour ça qu'elle est réaliste. Elle est en décalage avec le monde. Il y a un vrai message derrière. Non, je déconne. Non, mais moi, c'est l'impression que ça m'avait donné, en fait. C'est-à-dire que j'avais vu la texture de la terre du tout premier boss. Tu sais, c'est une espèce de shader hyper chiadé. Je me dis, putain, mais c'est beaucoup trop réaliste pour ça. Et en fait, c'est le seul truc qui est réaliste juste derrière. La Terre, elle redevient normale. Donc j'ai l'impression que c'est comme si dans l'univers de Paper Mario, les trucs qui étaient, j'allais dire, diaboliques, méchants ou je sais pas quoi, étaient des trucs réalistes et que les trucs normaux, c'était justement les trucs très cartoon. Je sais pas si c'est ça l'état d'esprit derrière, mais c'est vraiment l'impression que ça donne. En tout cas.
Pourquoi pas, ouais.
Mais c'est le seul truc où je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai que c'est rigolo, l'eau, elle est hyper réaliste, un shader hyper chiadé aussi pour la faire.
C'était alors déjà le cas dans le précédent.
Toute l'eau que t'as
vue
avant, c'est de l'eau en carton, très grossière.
Et en fait, c'est souvent ça, d'ailleurs, j'ai l'impression, dans le jeu, les côtés, les éléments qui ne devraient pas être là ou qui sont un peu incongrus par rapport à l'univers sont extrêmement réalistes en termes de texture, de design. Et en fait, c'est des trucs qui clashent. Typiquement, là, on parlait de la Terre juste avant. Et la première fois que tu rencontres cette espèce de zone de Terre que tu dois enlever, la Terre est super réaliste parce qu'en fait, cette zone de Terre ne devrait pas être là.
Elle a rien à foutre là. Mais t'avais le même truc dans Color Splash où les objets que tu cartifiais la fois que tu transformais en cartes, ils étaient hyper réalistes. Parce que tu te rappelles le beefsteak, il y a un moment où tu combats un boss.
Si, mais c'était pareil dans Sticker Star. Hein.
Voilà, mais il est hyper réaliste, la texture est super bien foutue, le steak, t'as presque l'impression que tu pourrais le manger, quoi. Donc effectivement, il avait rien à foutre là.
Putain, mais cette phrase, tu combats un boss et c'est un steak.
Mais oui, c'est un steak haché.
Bon, enfin là, les boss, il y en a un,
le c'est le crayon. Le réalisme, ça fait chier.
Mais je pense que c'est ça le message.
Et d'ailleurs, ça tombe bien qu'on reparle de cette histoire de cartes. Ça, c'est un truc qu'ils ont retiré, par contre, des épisodes précédents, et je suis très content qu'ils l'aient fait. C'est les options d'attaque à durée très limitée, à usage unique. Alors, là, il y a toujours des attaques spéciales à durée limitée, mais qui sont très faciles à récupérer. Et ça, c'est un truc qui était vraiment supportable dans Sticker Star, c'est que tes ressources en combat, c'était aussi tes ressources pour le monde, et c'est ingérable. Ouais. Et je suis content qu'il l'ait dégagé pour des inventaires plus classiques et des actions au combat beaucoup plus normales, en fait. On a moins d'options, mais honnêtement, c'est mieux. Enfin, pour le coup, c'est moins, on n'a pas à se prendre la tête avec ça, quoi.
Tout à fait. T'as pas à te prendre la tête à essayer de gérer. Enfin, dans Color Splash, il fallait que tu gères ton deck, finalement, et que t'aies toujours des cartes. Donc, tu passais ton temps à faire des allers-retours chez le marchand pour être certain d'avoir des cartes pour pas te retrouver à la dèche, quoi. C'est vrai que c'était relou. Faut quand même le dire. Bref. Écoutez, les petits gars, je pense qu'on a déjà fait une bonne émission, là. On les a bien. On pourrait peut-être s'arrêter là.
Je suis d'accord.
Bon, 1h30, hein, 1h20, voilà, c'est très bien.
Pour une émission de reprise, c'est pas si mal que ça. Donc on va se quitter là, on va se retrouver dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on parlera de The Legend of Zelda, l'ère du fléau, puisqu'il y aura eu le direct spécial dessus. On parlera peut-être peut-être d'un autre jeu, je ne sais pas exactement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui sort entre septembre et octobre. mais on aura peut-être un autre petit truc.
Pas comme l'an dernier.
C'est un peu ça. Ouais.
Mais on aura peut-être Pikmin un. Dans mois d'octobre.
Oui, tout à fait. Enfin, Pikmin 3,
vrai,
si tu veux, tu peux réécouter notre émission sur Pikmin 3 d'il y a 10 ans.
Pas loin. C'est
la... pas loin. Hein,
c'est la nouvelle façon de jouer.
J'étais pas né.
Comme le poisson.
Oh,
oh là.
Est-ce que le poisson est un toad?
Peut-être. Oui, y en a. Alors attends, donc Pikmin, c'est pas début novembre?
Non, c'est en octobre.
C'est en octobre?
Ouais.
Pourquoi je l'ai pas vu jusqu'à présent? Je suis un gros con.
Parce que t'es trop mauvais.
Oui, d'ailleurs, je vais voir si je vais le commander ou pas, lui.
Ouais. Bah, si je l'ai pas fait.
Oui, moi, j'y ai pas joué.
Eh bah, écoute, je pense que ça vaut le coup. C'est vrai que le mode challenge.
On a eu l'annonce aussi de Mario 3D Land, Mario 3D World qui va ressortir sur Switch, du coup, que reste-t-il à la Wii U?
Xenoblade Chronicles.
C'est le voilà. Remake des deux Zelda, et puis voilà.
Et Color Splash.
Et du coup, oui, Color Splash, mais c'était pas terrible.
Star Fox Zero. Et voilà, boum boum boum.
Et il reste le meilleur jeu, hein, il reste Xenoblade.
Non, il reste aussi, je suis désolé, Mighty No. 9 n'est pas encore sorti sur Switch.
Est-ce grave?
C'est une mauvaise chose.
On a bien Megaman 11, ça remplace.
Non, ce Megaman 11 est quand même bien meilleur que Mighty No. 9.
Putain, c'est
et
vrai.
Une
c'est
chose qu'a la Wii U que n'a pas la Switch, c'est, rappelons-le, le podcast de Cyprien qui a fait plus de vues que ce que la Wii U a vendu d'unité.
Putain, merde.
Ah oui, et aussi la Wii U donne encore le sourire aux enfants de Mortal, contrairement c'est à la vrai. Switch.
Exactement. Exactement.
RIP Nintendo Land.
Non mais, là, Nintendo Land est un très bon jeu.
Oui.
Je maintiens que Nintendo Land est un des jeux qui... Mais il faudrait qu'on fasse un petit sujet que reste-t-il à la Wii U. Parce que finalement, on a peut-être un peu fait le tour, mais...
Tu veux faire une émission courte, toi?
C'est possible.
Non, un Nintendo court. Bar... Un Dojo Bar Mini.
Si on fait ça, je chante le thème de combat de Xenoblade Chronicles. Hein.
Je tout à fait. Je suis chaud, moi, il n'y a pas de problème.
Mais enfin, pas que
je la prenne. Bref. Ok, bah écoutez, non, quoi qu'il arrive, on se retrouve dans deux semaines. On vous fait à tous des gros bisous. À ciao, tout le monde.
À ciao.
Bisous.
Salut.
Bisous.